Laudetur Jesus Christus.
C'était une figure de la RDC. Hommage national hier au cardinal Laurent Monsengwo. Le cardinal Fridolin Ambongo a célébré la messe à laquelle ont assisté de nombreux responsables du pays. Nous y revenons juste après les titres. Également à la une de ce journal, la tentative d'assassinat du président de la transition au Mali. Les tentatives de contre-putsch ne sont pas rares dans le pays. Analyse à suivre. Le président français Emmanuel Macron surveillé avec le logiciel Pegasus. Également 15 ministre de l'Hexagone, des numéros sélectionnés par les renseignements marocains. Une solution à deux États. Après sa visite à Chypre, le président turc est on ne peut plus clair. Au grand dam, nous l'entendrons, de l'Union européenne. Puis enfin, dans notre dossier de la rédaction, en fin de journal, direction Cuba, une vague de manifestations inédites a traversé Cuba ces dernières semaines. Pour le père Jean Pichon, sur place depuis 13 ans, le climat sur l'île se dégrade. Témoignage à suivre.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. En RDC, hommage national au Parlement pour le cardinal Laurent Monsengwo, mort le 11 juillet dernier en France. Aux côtés de leur gouvernement et Premier ministre, les présidents Félix Tshisekedi de RDC et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, accompagnés de tout un parterre d'officiels et de fidèles, ont rendu hommage hier à l'archevêque émérite de Kinshasa. Il sera inhumé aujourd'hui en la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'est le cardinal Fridolin Obongo qui a officié la messe à Kinshasa, Pascal Moulégua.
Des milliers de catholiques et autres chrétiens de tous bords ont envahi les gradins du siège du Parlement pour rendre hommage au cardinal Laurent Monsengwo. Ces images étaient placardées partout. La télévision publique a assuré la retransmission de l'événement. Avant l'oraison funèbre, les gerbes et les fleurs des hautes autorités, le cardinal Fridolin Ambongo, successeur de Laurent Monsengwo à la tête de l'archevêché de Kinshasa, n'a pas ménagé les autorités.
On ne peut rendre hommage à la mémoire du cardinal Laurent Monsengwo si on laisse la population croupir dans la misère, alors que les gouvernants vivent dans l'opulence et l'impunité.
Acteurs politiques, religieux, diplomates et autres ont vanté les caractères bien trempés du défunt, son combat pour la justice et contre la médiocrité. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a reconnu à Monsengwo un symbole pour la nation. À titre posthume, le président Félix Tshisekedi a admis l'ancien archevêque dans l'ordre des héros nationaux au grade de grand cordon. Pascal Moulégua, Kinshasa, Radio Vatican.
Et plus de précisions sur l'hommage national au cardinal Monsengwo à retrouver sur la page Afrique de notre site internet. Les élections législatives et présidentielles indirectes débutent ce week-end en Somalie et le mouvement djihadiste Shebab compte bien peser sur le scrutin. Hier, le groupe lié à Al-Qaïda a envoyé un message aux candidats. Apprenez de ceux qui vous ont précédé et ne vous laissez pas duper par les promesses creuses, avertissent les djihadistes. Dans une Somalie meurtri par la guerre civile, le long processus des élections indirectes se tient finalement après le revirement de position du président Farmajo qui avait d'abord annoncé prolonger son mandat de 2 ans sans passer par le vote. Le président de la transition malienne visé par des coups de couteau alors qu'il était à la mosquée pour la fête de l'Aïd hier matin, un homme a tenté de le poignarder à la sortie de la prière. Assimi Goïta n'a pas été blessé. « Je vais très bien », a-t-il déclaré quelques heures plus tard à la télévision nationale et dénonçant un acte isolé. 2 hommes ont été interpellés, l'assaillant et un complice, toujours dans les mains des renseignements hier soir. Les précisions à Bamako de Paul Lorgerie.
Si son identité ainsi que son mobile demeurent inconnus à l'heure actuelle, les remous de ce type ne sont pas rares lors des périodes de transition au Mali. Lamine Savane est politologue au sein d'une des principales universités maliennes.
Les transitions militaires se passent très rarement sans tentative de contre-putsch. Nous l'avions déjà connu avec la tentative de contre-putsch des Bérets Rouges qui s'est soldée par une lutte fratricide entre Béret Vert et Béret Rouge.
Et lors de l'année écoulée, le président actuel se serait fait de nombreux ennemis, tant dans l'arène politique qu'auprès de ses frères d'armes. Mais une troisième option est envisageable. Malgré les efforts de la communauté internationale et des forces armées partenaires, les djihadistes grignotent toujours plus de territoire dans le pays. Alors que la menace se concentrait au nord et au centre ces dernières années, elle glisse doucement vers le sud, à la frontière avec la Côte d'Ivoire et la Guinée. Une évolution de la situation avec laquelle le président malien doit composer opposés jusqu'aux prochaines élections de février 2022, tandis que la force antiterroriste française Barkhane, forte de 5100 hommes, se retire progressivement. Paul Lorgerie, Bamako, pour Radio Vatican.
En Allemagne, le bilan des victimes des inondations ne cesse de s'alourdir. 169 personnes sont mortes, des milliers ont perdu leur maison. Le gouvernement a annoncé hier débloquer une aide d'urgence de plusieurs centaines de millions d'euros pour soulager les sinistrés. Intempérie dramatique également en Chine. 12 personnes sont mortes dans l'inondation du métro de la ville de Zhengzhou, dans le centre-est du pays. La métropole est touchée par des pluies et orages les plus forts depuis une soixantaine d'années. Plus de 200 000 personnes ont été évacuées et un barrage risque de céder d'un instant à l'autre, alertent les autorités. Le scandale n'en finit pas de faire parler de lui. Pegasus, du nom d'un logiciel espion développé par une société israélienne et qui aurait infiltré les téléphones portables d'au moins 50 000 personnes. Avocats, militants des droits de l'homme ou journalistes, mais aussi responsables politiques et non des moindres. Ainsi, le président français Emmanuel Macron et une large part de l'exécutif en auraient été victimes. Olivier Bonnel.
Et oui Marine, en 2019, les numéros de téléphone du président français mais aussi du premier ministre Édouard Philippe et de 14 de ses ministres ont été sélectionnés pour une mise sous surveillance par Pegasus. C'est ce que révèle Le Monde, le quotidien français et 16 autres journaux de la planète révèlent dans une série d'enquêtes l'ampleur de cet espionnage. Pegasus permet à distance de récupérer des messages et même d'écouter des conversations. Alors rien n'indique si les téléphones ont été infectés par le logiciel espion, particulièrement sophistiqué et invisible. Mais l'affaire est prise très au sérieux à Paris. Si les faits sont avérés, ils sont évidemment très graves, a réagi l'Élysée. Le Premier ministre Jean Castex a lui indiqué que des investigations ont été ordonnées suite à ces révélations. C'est au Maroc l'un des pays qui a largement utilisé les services de NSO Group, l'entreprise qui commercialise Pegasus, que le numéro d'Emmanuel Macron a été saisi au sein des services de sécurité. D'après Le Monde, le royaume chérifien aurait ciblé plus de 10 000 numéros, dont près de 10% concernent la France. De nombreux députés français, Marine, de tous bords politiques sont également dans la liste des portables visés par ce logiciel. Plusieurs plaintes ont déjà été déposées.
Merci Olivier. Olivier Bonnel. Un triste record. Hier, au moins 430 personnes ont tenté la traversée de la Manche pour rejoindre les côtes britanniques depuis la France. Et ce, dans la seule journée d'hier, les ministres de l'Intérieur français et britannique se sont entretenus dans la soirée, promettant de renforcer leur coopération contre l'immigration clandestine. Après sa visite de 2 jours dans la partie turque de Chypre Nord, Recep Tayyip Erdogan est on ne peut plus clair. Pour lui, la solution à 2 États est la seule solution envisageable pour l'avenir de Chypre. Le chef de l'État turc continue donc de se montrer intransigeant, et ce, malgré les mises en garde de l'Union européenne. À Istanbul, Anand Lower.
Ce n'était certainement pas ce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait en tête lorsqu'elle espérait au début du mois un signal positif du chef de l'État turc au cours de sa visite dans la partie nord de Chypre. Devant les officiels chypriotes turcs, Recep Tayyip Erdogan a plaidé une fois de plus, et en des termes virulents, pour une solution à 2 États rejetée par les Européens. Il n'est plus possible pour nous de croire les chypriotes grecs et de perdre 50 ans de plus. Sur Chypre, il y a 2 États et 2 peuples. Tôt ou tard, la communauté internationale acceptera cette réalité, a martelé le président turc, promettant de ne pas revenir sur cette position. Recep Tayyip Erdogan se montre donc inflexible au risque de poursuivre les tensions avec l'Union européenne, même s'il s'est gardé pendant sa visite d'annoncer toute initiative concrète qui aurait pu les aggraver. Le chef de l'État turc a également accusé la partie grecque de violer les droits des chypriotes turcs dans le partage des réserves d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, autre sujet sensible pour les Européens. Il a promis, je cite, de continuer à y défendre les droits et les intérêts du peuple chypriote turc, comme nous y protégeons les nôtres. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
Nous vous en parlions hier. L'Irak est endeuillé par un nouvel attentat de l'organisation de l'État islamique qui visait un marché bondé. Au moins 36 personnes sont mortes, dont des femmes et des enfants. Dans un télégramme envoyé hier soir aux nonces apostoliques en Irak, le pape François a fait part de sa profonde tristesse et d'y prier pour que la violence ne vienne pas freiner les efforts de ceux qui s'engagent à promouvoir la réconciliation et la paix en Irak, pays cher au souverain pontife qu'il a visité en mars dernier. Ce message images est à retrouver bien sûr sur notre site internet. Ils étaient plusieurs milliers de Colombiens de nouveau dans la rue hier pour protester contre la politique du gouvernement Iván Duque. Les manifestants réclament des mesures pour plus de justice sociale et contre la répression policière. Depuis le début du mouvement, fin avril, plus de 60 personnes ont été tuées en marge des manifestations. Le 11 juillet dernier, d'importantes manifestations ont eu lieu dans toute l'île de Cuba. Bilan, un mort, des dizaines de blessés et plus d'une centaine d'arrestations. Des troubles d'une ampleur inédite depuis la révolution de 1959. La Havane, sous sanctions américaines depuis 1962, a attribué la responsabilité de ces débordements à Washington. Aujourd'hui, la population est plus que jamais divisée entre défenseurs de la révolution et partisans d'un changement. Pour tenter d'apaiser la situation, le gouvernement cubain a annoncé il y a une semaine une première salve de mesures. Sont notamment facilitées l'importation d'aliments et de médicaments, car la population est en effet confrontée à des pénuries aggravées par la crise économique et sanitaire. Une dégradation tangible pour le père Jean Pichon. Avec trois confrères français, ce prêtre de la communauté Saint-Martin est depuis 13 ans en mission dans la paroisse de Placetas, dans le centre de l'île cubaine. On écoute son témoignage.
On a assisté depuis déjà plusieurs mois à une dégradation de la situation sociale, sanitaire, avec beaucoup de pénuries de produits de première nécessité. Ça avait commencé déjà avant la crise du Covid, mais ça s'est accentué évidemment depuis plus d'un an là. On sentait vraiment les gens fatigués et exténués, avec beaucoup de stress, d'agressivité aussi, parce que la vie quotidienne des Cubains s'est transformée en un véritable calvaire à faire la queue pour tout. Et donc c'était évident qu'il y avait un malaise profond qu'on pouvait sentir. Après, s'attendre à des manifestations telles qu'elles ont eu lieu, non, puisque c'est vraiment du jamais vu. Moi, ça fait 13 ans que je suis à Cuba, j'ai jamais vu ça, mais même historiquement, on n'a jamais vu dans toutes les villes, ou dans beaucoup de villes, en tout cas sur toute l'île, au même moment, le même jour, des gens qui descendent dans la rue et le gouvernement a été lui-même surpris. On le voit dans les réponses qui ont été données. On sent bien qu'ils ont été pris de court et ils ont eu peur.
Au cours de ces derniers mois, est-ce que votre mission auprès de la population a changé et de quelle manière ?
Alors, faut savoir que l'Église à Cuba, elle a quand même une mission humanitaire qui est assez forte. Dès les années 90, après la chute de l'URSS, quand la situation économique est devenue très difficile à Cuba, l'Église a commencé à reprendre un peu de place dans la société par le biais de ce qu'on appelle les comedores, c'est-à-dire des soupes populaires, et de tous les programmes qui permettent de venir en aide aux plus démunis. Donc ça, c'est quelque chose qui est une réalité très forte déjà de l'Église cubaine depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire récente, des gens qui ont faim, il y en a beaucoup plus qu'avant. La difficulté, c'est que nous, on aide dans la mesure de nos possibilités, mais on est confronté au même problème de pénurie. Parfois, même si on a l'argent dans la main, on ne trouve pas les aliments qui sont nécessaires pour nourrir des personnes. Donc oui, notre mission, elle a évolué en ce sens où on est plus attentif et surtout, il y a plus de besoins.
Au sein de la population, est-ce que vous observez une forme de solidarité malgré tout ?
Ah oui, les Cubains, ils sont très solidaires les uns les autres. Ils s'entraident beaucoup. Le problème, si vous voulez, c'est que en ce moment, la vie quotidienne des gens est transformée. Les mères de famille, notamment, passent le plus clair de leur temps à faire la queue pour trouver de la nourriture. Les gens essayent de s'entraider dans la mesure du possible. Le problème, c'est que pour pouvoir aider son voisin, il faut soi-même avoir de quoi nourrir ses enfants.
Êtes-vous inquiet face à la situation actuelle ?
Inquiet, oui, dans le sens où on ne sait pas trop comment ça va se passer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prisonniers, beaucoup plus que la centaine qui est annoncée dans les médias. C'est-à-dire que la police continue à arrêter des gens chez eux. Tous ceux qui étaient dans les manifs risquent de perdre leur travail. Donc là, ils ont commencé à licencier des gens, des professeurs, des personnes qui travaillent dans le monde de la culture. Et dans le même temps, le président a fait un discours appelant l'unité. Et on voit bien que dans les faits, c'est pas du tout le cas. On sent qu'ils ont peur, qu'ils savent pas trop comment ça va se passer. Et du coup, oui, ça inquiète un petit peu parce que il y a quand même un climat de violence qui peut exploser. Malheureusement, face à une situation qui dure depuis tellement longtemps, à un moment, il faut aussi passer outre la peur et se dire, bah, même si ça doit coûter et ça doit être difficile, il faut aussi que les choses évoluent.
Et qu'en est-il des jeunes que vous rencontrez ?
La jeunesse demande un changement et surtout, et c'est ça le constat d'échec qui est flagrant pour ce système politique à Cuba, c'est que les jeunes veulent partir par tous les moyens. La pandémie, les frontières fermées, les difficultés pour obtenir des visas n'a fait qu'accentuer ce désir de partir. En 13 ans, c'est impressionnant le nombre de personnes qui sont parties de Cuba. Mais dès que les frontières rouvrent un petit peu, ça va être une hémorragie. Et donc nous, on essaye de permettre aux gens d'avoir l'espoir de pouvoir construire sa vie ici. Mais c'est très dur pour les jeunes d'avoir un projet de vie sur place. Ils veulent partir parce qu'ils n'en peuvent plus. Objectivement, les Cubains sont dans un moment compliqué. On peut les aider concrètement en priant pour eux.
Un entretien réalisé par Adélaïde Patrignani à retrouver en intégralité sur notre site vaticannews.va. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 13h. Une très belle journée à toutes et à tous.